Les podcasts de Ciel et Espace en compagnie d'Hubert Reeves. Hubert, il faut le rappeler, on ne connaît pas 95% de la substance de l'univers. Il s'agit toujours d'observation d'une matière noire qui, en quelque sorte, se détecte par son absence.
Détection indirecte.
C'est aussi le cas pour les grandes structures à très grande distance, le rayonnement de fond. Il s'agit toujours d'observation.
Voilà.
On reste toujours lié au principe théorie, observation et observation qui valide ou jette à la poubelle la belle idée, mais qui ne fonctionnerait pas.
C'est ça. Ou qui valide à peu près, ça c'est le meilleur cas. C'est l'observation est à peu près compatible avec les prévisions, mais pas exactement. Alors à ce moment-là, on s'est dit, bon, ben, on va améliorer, on va raffiner. Ça, c'est le cas idéal. Quand ça marche parfaitement bien, vous n'avez rien appris. Un des problèmes de la physique des particules jusqu'ici, c'est que le modèle standard de la physique permettait de prévoir, de faire des prévisions, et ces prévisions étaient tellement précisément remplies par les observations qu'elles ne nous apprenaient rien. Or, nous savons déjà depuis longtemps qu'il y a beaucoup de problèmes avec la physique, et on espérait toujours que les expériences allaient nous apprendre, justement en ne donnant pas tout à fait le bon résultat. Donc ça vous permet de raffiner, d'affiner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas dans les laboratoires qu'on fait progresser la physique, c'est dans l'astronomie. Parce que c'est le Soleil qui nous a appris, qui nous a confirmé l'oscillation des neutrinos, les propriétés des neutrinos, le fait qu'ils se transforment les uns dans les autres, c'est justement la réponse à la question. Moi, je me souviens quand j'ai commencé mes travaux, on se disait le Soleil est un réacteur thermonucléaire, donc il doit émettre des neutrinos. Les neutrinos sont des particules qui sont émises statutairement dans toutes les réactions nucléaires. Donc, on avait fait des calculs pour savoir si, comme Bethel l'avait montré, le Soleil était vraiment un réacteur thermonucléaire avec fusion d'hydrogène en hélium, il devait y avoir un certain nombre de neutrinos qui étaient émis par le Soleil. Et donc, c'était là une observation test. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a fait les premiers... Raymond Davis, qui vient de mourir, a fait les premiers détecteurs à neutrinos. Il a observé des neutrinos qui viennent du Soleil. Bon, c'est génial. Ça, c'est vraiment la confirmation. Parce que les neutrinos viennent du centre du Soleil. On ne voit que la surface. Les neutrinos vous permettent d'observer ce qui se passe au centre du Soleil. Donc, premier résultat, on a observé des neutrinos en venant du Soleil. Ça confirmait que le Soleil, les étoiles en général, tirent leur énergie de réactions nucléaires. Mais problème, on en trouvait à peu près la moitié de ce qu'on calculait. Et ça s'appelait l'énigme des neutrinos solaires. Pourquoi les soleils émettent-ils, semble-t-il, émettent moins de neutrinos que ce que nous prévoyons? Alors, il y avait deux possibilités. Ou bien on connaissait mal le soleil, ou bien on connaissait mal les neutrinos. Alors, il s'est avéré au cours des années, surtout par l'étude des oscillations, des tremblements de soleil, un peu comme le soleil tremble, comme un peu les tremblements de terre, ce qu'on appelle l'hélioséismologie, on s'est aperçu qu'on a pu connaître, et aujourd'hui on connaît très bien le Soleil pratiquement jusque dans son centre. Donc la faute n'était pas au Soleil, la faute pouvait être aux neutrinos. Et c'est bien ça qui a été montré. Les expériences qui ont été faites au Japon, Camille Ocande, qui ont été faites à Sudbury au Canada, ont confirmé cette hypothèse que, d'abord, on savait qu'il y a trois sortes de neutrinos, électroniques, muoniques et toïques, les trois familles dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi que ces neutrinos peuvent se transformer les uns dans les autres. Et ça, donc, on a confirmé cette idée que les neutrinos peuvent se transformer. Or, ça n'était pas du tout dans le cadre de la physique. Quand on a développé le modèle standard des particules, on s'est posé la question de savoir est-ce que les neutrinos ont une masse ou non. Question, on ne fait pas savoir a priori. Donc, tous les modèles ont été faits dans l'idée que les neutrinos ont une masse nulle, comme les photons. C'était simplement que c'était plus simple comme ça, qu'il n'y avait pas de raison a priori de penser qu'ils avaient une masse. Donc on a développé ce modèle, et ce modèle nous amenait à cette difficulté des neutrinos solaires. Si les neutrinos ont une masse, n'ont pas de masse, ils n'oscillent pas. S'ils n'oscillent pas, on n'a pas de réponse au problème de la déficience du budget des neutrinos. Le fait qu'on a observé que les neutrinos oscillent implique qu'ils ont une masse. Et voilà la nouvelle physique. Vous voyez comment le Soleil De même, ça ressemble à ce qui s'est passé au XVIIe siècle. La physique, en grande partie, est venue des astres. C'est Newton. C'est Newton qui a formulé la loi de la gravité à partir d'observations astronomiques. Depuis cette période, généralement, vous voyez, il y a un dialogue entre la physique des particules et l'astronomie. Le premier épisode, c'est Newton et la physique apprend quelque chose de l'astronomie. À partir de là, la physique se développe et c'est elle qui est utilisée pour étudier les astres. L'astrophysique, c'est l'application des lois de la physique aux astres. Donc pendant une longue période, le dialogue va dans le sens, la physique apprend des choses à l'astronomie. Et récemment, depuis quelques décennies, c'est changé. Nous avons l'observation des neutrinos du Soleil, l'observation des neutrinos venant de la supernova 1987A. Ces observations nous permettent d'améliorer la physique à partir d'observations astronomiques. Voilà donc un épisode de cette conversation entre la physique et l'astrophysique.
Est-ce que la dernière fois que la physique a apporté à l'astronomie, c'est pas comme vous l'expliquez dans les chroniques des atomes et des galaxies, le moment où elle découvre par l'équation l'existence des trous noirs, des objets dont on ne peut même pas soupçonner l'existence, mais qui existent au sein même des équations comme quelque chose de possible.
Oui, tout à fait. Ça, c'est un des rapports intéressants entre la physique et l'astrophysique. La physique, par exemple, en parlant de la théorie de la relativité d'Einstein, permet de dire qu'il pourrait exister des astres qui sont des trous noirs, c'est-à-dire qui sont tellement massifs, tellement compactés, qu'ils n'émettent pas de lumière, mais qui, bien sûr, se font sentir justement comme la matière sombre par les champs de gravité. Donc, au départ, quand Einstein, d'ailleurs, c'est pas Einstein qui a découvert cette théorie, cette existence des trous noirs à partir de sa théorie, lui n'y croyait pas trop, si je me souviens bien, mais c'est d'autres personnes, Schwarzschild, qui a dit, eh bien, cette théorie permet l'existence de trous noirs. C'est-à-dire, une théorie, ce sont des équations, ces équations ont des solutions, certaines de ces solutions sont compatibles avec l'existence de trous noirs. Alors, évidemment, la question se pose toujours de savoir, même si une équation a des solutions, est-ce que ces solutions représentent la réalité ou non ? On ne peut pas savoir a priori.
C'est platonicien.
Ah, oui, exactement. Donc, on ne pouvait pas savoir a priori si les trous noirs existaient. C'est une chose d'être compatible avec la théorie de la relativité, c'est une autre chose d'exister. Et à partir de là, donc, cette théorie a permis de chercher à identifier de tels objets qui aujourd'hui sont identifiés en très grand nombre. Il y a des trous noirs par milliers. On pense qu'il y en a dans le centre de chacune des galaxies. Dans notre galaxie à nous, des trous noirs qui sont nés après l'effondrement d'étoiles massives, il y en a certainement plusieurs milliards.
C'est ce qui fascine aussi le public en règle générale. Le trou noir est une des questions qui vous est le plus régulièrement posée dans toutes les conférences.
Oui.
Comment vous l'analysez ?
Eh bien, parce que c'est tout à fait fascinant. C'est justement le fait que quelquefois, la réalité dépasse tout ce que l'imagination a pu faire. Aucun auteur de science-fiction, dans ses plus grands délires, n'a pu imaginer l'existence des trous noirs, et surtout des trous noirs en rotation, dans lesquels on pourrait entrer et ressortir peut-être dans un autre univers. Vous voyez, ça, je crois que c'est ça qui est l'aspect fascinant des trous noirs. C'est cette porte peut-être ouverte sur d'autres univers avec lesquels nous n'aurions aucun contact possible, mais que nous pourrions aller visiter si on était prêt à se sacrifier et à se jeter dans un trou noir en rotation. Alors, il ne faudrait pas prendre un petit trou noir de type d'une masse solaire, parce que là, les densités sont telles que la personne serait broyée avant d'en sortir. Mais si on considérait, par exemple, un grand trou noir comme ceux qu'on trouve à l'intérieur des galaxies qui font quelques centaines de millions de masses solaires et même quelques milliards de masses solaires, alors on pourrait très bien y entrer et les effets de marée qui déformeraient quelqu'un dans un petit trou noir seraient très faibles. Et on peut imaginer qu'on pourrait ressortir dans un autre univers, ce qu'on appelle des trous de verre ou des fontaines blanches. Il y a toute une littérature tout à fait fantastique qui a pour intérêt qu'elle n'est pas du tout incompatible avec, avec les lois de la physique. Oui, et donc, elle est, peut-être elle existe, peut-être ça existe.
Alors, je voudrais rester toujours sur ce rapport entre la théorie et l'observation. Mm-hmm. Aujourd'hui, on dit beaucoup qu'on découvre à travers des modèles qui tournent sur ordinateur, où on met des étoiles, des planètes, des amas de galaxies, parfois même le grand rêve de mettre tout l'univers sur ordinateur et de changer quelques paramètres à la vitesse de la lumière, à la gravité, aux forces fondamentales. Est-ce qu'on peut là aussi considérer que c'est une voie future d'exploration et de compréhension de l'univers, et l'on pourrait faire des découvertes virtuelles sur ces modèles informatiques, où ce sont toujours des compléments à l'esprit, à l'idée, à la vision que des hommes pourraient avoir de la nature même de l'univers?
Ça va dans les deux sens. C'est vrai que ces modèles d'univers pourraient permettre de décrire des réalités qui existent peut-être. Le problème, c'est que quand vous faites un modèle d'univers, vous devez y mettre des ingrédients. Et dans ce modèle, vous mettez tout ce que vous savez. Et la question, c'est que vous ne savez pas tout. Par exemple, si quelqu'un avait fait un modèle comme cela avant les années 1995, il ne serait pas venu à l'idée d'introduire dans son modèle cette composante d'énergie sombre dont nous avons parlé. Or, cette composante faisant 70% de la densité de l'univers aujourd'hui, vous voyez que les modèles auraient été très incomplets. Tout modèle que l'on fait est passible de révision majeure à mesure qu'on découvrira de nouvelles choses. En d'autres mots, nous savons trop peu de choses aujourd'hui, et la leçon de l'énergie sombre est là pour nous l'apprendre, que nous savons trop peu de choses pour que de tels modèles d'univers aient quelque chance d'être vraiment complets. Mais c'est un jeu qu'on peut jouer, les gens, on y joue beaucoup, mais bon.
Alors, autre découverte sortie des équations que vous pointez du doigt, c'est celle de l'antimatière.
Oui.
Et cette découverte, elle aussi, est sortie de la tête et des équations d'un homme, puisqu'il s'agit de Dirac.
Absolument.
Là aussi, on a un deuxième exemple d'immersion, en tout cas de naissance d'une réalité physique sortie des équations.
Oui, absolument. Ça, c'est un grand moment de la physique contemporaine. Au début du siècle, entre les années 1910 et 1920 ou 1930, il y a deux grandes théories qui sont formulées. La théorie de la relativité, la théorie de la gravité, qui est formulée par Einstein dans les années 1915-1917. Et puis, dans les années entre 1920 et 1930, la physique quantique, qui, chacune de ces théories, fonctionne très bien dans son domaine particulier. Par exemple, la relativité marche très bien quand on veut décrire la matière à haute densité, mais elle est incapable de tenir compte de la réalité quantique, dualité, onde, corpuscule, champ quantique et tout ça. La théorie quantique fonctionne très bien quand on veut décrire les atomes, mais pourvu qu'ils ne soient pas dans un champ de gravité trop élevé. À ce moment-là, elle ne fonctionne plus. Dirac se rend compte, dans ces années, que les théories, les équations qui formulent le comportement de la matière, les théories de la physique quantique, ne tiennent pas compte des avancées de la relativité et que la relativité ne tient pas compte des avancées de la physique quantique. Alors, il décide d'essayer d'écrire une équation qui soit à la fois compatible avec la physique quantique et avec les avancées de la relativité. Et il écrit une équation qui est terriblement compliquée. Et il commence donc à essayer de découvrir les solutions et il s'aperçoit que cette équation, il dira lui-même un jour, mon équation était beaucoup plus savante que moi, il dira, cette équation prévoit, là je vais un peu vite en affaire, mais prévoit l'existence de l'antimatière. Et on en reste là, donc on est en 1930. L'antimatière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque particule que l'on connaît, il existe une particule équivalente qui soit semblable en tout point, sauf que quelques différences mineures, en particulier, mineures ou majeures, je ne sais pas, la charge. Alors, l'électron, on le connaît, il a une charge négative. La théorie de Dirac prévoit l'existence d'un anti-électron, on appellera le positron, qui est en tout point semblable à l'électron, sauf qu'il est de charge positive. elle prévoit l'existence, on sait qu'il y a des protons, elle prévoit l'existence d'antiprotons, on sait qu'il y a des neutrinos, on ne sait pas encore cette période, mais elle prévoit qu'il y a des antineutrinos. Et l'ensemble de ces particules qui sont un peu miroirs, c'est comme deux mondes miroirs, il y a d'un côté, on met d'un côté les particules élémentaires connues, et Dirac dit, essentiellement, il existe aussi des antiparticules qui sont semblables, de charges différentes, puis il y a d'autres paramètres différents, mais pas important pour l'instant. Et donc, il prévoit l'existence, cette possibilité qu'il existe, en parallèle avec le monde de la matière, un monde qu'on appelle d'antimatière, dans lequel chacune des particules est présente, mais avec une charge, la charge opposée. Donc, c'est une hypothèse à cette période-là. C'est quelque chose qui sort de ces équations, mais qui n'est pas vérifié. Encore une fois, ce n'est pas parce que les équations prévoient quelque chose que cette chose existe. Eh bien, en 1932, c'était rapide, hein? 1932, c'est Anderson, je pense, montre que dans le rayonnement cosmique, il y a effectivement des électrons et des positrons. Et à partir de là, on a vérifié l'existence des antiprotons, des antiquarks, des antineutrinos. Donc là, c'est un exemple de dissolution de la physique qui était imposée. Vous voyez, c'est un petit peu différent. C'est imposé par le besoin de cohérence. Dirac a raison. On ne peut pas à la fois avoir des équations dans un domaine qui soient incohérentes avec toute la réalité. Il se dit que la réalité doit être décrite par des équations cohérentes avec tous les aspects. Or, la relativité, les translations de Lorentz et tout ça, c'est quelque chose qui était démontré. La physique quantique, la nature, l'existence, la dualité onde-corpuscule, les champs quantiques, c'était quelque chose qui est démontré. Alors, il a cette idée que la réalité ne peut pas être, doit être cohérente. Donc, en impliquant, en imposant cette idée que la réalité doit être cohérente, il découvre deux choses importantes. On ne peut pas parler du spin des électrons, c'est-à-dire le fait que les électrons... On savait que les électrons pouvaient s'orienter dans un champ magnétique, mais on ne savait pas très bien pourquoi. On pensait que c'était des petites sphères magnétisées. C'était une hypothèse. Et Dirac montre que les équations impliquent forcément l'existence du spin des électrons, des particules, c'est-à-dire la possibilité qu'ils soient déviés dans un champ magnétique. Et d'autre part, implique l'existence de l'antimatière. Et l'antimatière est observée.
Alors, pour revenir au Big Bang, est-ce que ce n'est pas aussi dans cet esprit-là, c'est-à-dire que vous dites aujourd'hui c'est la théorie globale la plus plausible, bah, finalement parce qu'elle est cohérente, parce qu'on peut tirer tous les fils que vous avez décrits de l'infiniment grand dans le passé à l'infiniment petit dans le présent et dans le complexe, et en ce sens, elle tient debout.
La théorie du Big Bang résiste, elle est robuste, c'est-à-dire que toutes ces prédictions jusqu'ici ont été confirmées. Et je parle d'une autre prédiction qui est extraordinaire, c'est l'existence du rayonnement fossile, c'est-à-dire ce rayonnement millimétrique. Et ce qui est impressionnant, c'est que la théorie prévoit qu'il doit y avoir un rayonnement thermique, c'est-à-dire un rayonnement qui est à une certaine, émis par un corps à une certaine température. La théorie ne dit pas exactement quelle doit être cette température, mais quand vous l'avez déterminée, cette température, elle prévoit le rapport des intensités relatives dans chaque bande de longueur d'onde, ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir, avec une précision extraordinaire. Et aujourd'hui, on peut utiliser l'observation de la distribution en fréquence et en longueur d'onde, donc, du rayonnement fossile, comme un modèle de physique. C'est extraordinaire. La précision sur 60 mesures différentes est supérieure à 1%, ou même 0,5%. Donc, c'est vraiment très impressionnant. C'est ce qui rend la théorie du Big Bang séduisante. Au début, bon, quand elle a été présentée, la première énoncé de la théorie du Big Bang, c'est Lemaître, c'est la tombe primitive de Lemaître qui met ensemble la théorie de relativité et les observations de Hubble sur le mouvement des galaxies, l'expansion de l'univers. Il appelle ça la tombe primitive, mais l'idée y est déjà. Elle se développe après coup et elle devient la théorie du Big Bang. Et cette théorie, donc, qui est au début, je dirais qu'entre 1920 et 1965, on pouvait être sceptique parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'observations. Il y avait le mouvement des galaxies, mais il n'y avait pas vraiment beaucoup d'observations pour en tirer quelque chose d'aussi important qu'un scénario comme celui-là. ce qui a été vraiment l'époque la plus marquante, c'est la prédiction par Gamow en 1948 que si la théorie du Big Bang était correcte, alors l'univers devait avoir été plus chaud, alors il devrait y avoir un rayonnement résiduel. Et l'observation de ce rayonnement en 1965 par Penzias et Wilson, qui concordait tellement bien que du coup, les physiciens qui jusque-là étaient assez sceptiques, tout d'un coup, les gens se sont dit, une théorie qui est capable de faire de telles prévisions, elle a quelque chose. Et elle a quelque chose, on a intérêt à s'y intéresser plutôt qu'à la négliger. Et c'est là qu'après coup, elle a commencé à faire des quantités de prédictions, comme celle que je vous ai dit, trois sortes de familles, les abondances relatives de l'hélium, de l'hydrogène, le fait qu'on ne voit pas nulle part de corps plus froid, de réalité, de galaxie ou de rayonnement plus froid que celui du... La quantité est impressionnante.